France Inter.
Bonjour et soyez les bienvenus sur France Inter si vous nous rejoignez le 7 juillet dernier à la Maison Blanche. Benjamin Netanyahou remettait à Donald Trump la copie d'une lettre adressée au comité Nobel pour proposer sa candidature au prix Nobel de la paix dans une mise en scène soigneusement chorégraphiée, calibrée pour les caméras et l'opinion mondiale. Chaque année, les propositions affluent par centaines, les noms de Gisèle Pellico, du pape François ou encore d'Elon Musk circulent en ce moment aux côtés de celui du président américain. Trump, qui veut plus que jamais décrocher le Graal, il bâtit d'ailleurs une bonne partie de son second mandat sur cette image de pacificateur mondial. Son administration s'emploie à placer les États-Unis au centre de plusieurs conflits mondiaux. Mettre fin au conflit dans la bande de Gaza est la priorité absolue. En juin, Trump s'est aussi attribué le mérite d'un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan. Son administration a également facilité un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vendredi dernier encore, Trump a réuni les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais afin de tenter de mettre fin à 37 ans de conflit. Quant à la guerre en Ukraine, Trump doit rencontrer Poutine ce vendredi en Alaska avec peut-être une rencontre avec Zelensky dans la foulée. Reste à savoir si le comité Nobel y reconnaîtra de véritables avancées diplomatiques ou l'habileté d'un metteur en scène de la paix. Le Nobel doit-il récompenser les résultats tangibles, quitte à les devoir à des figures controversées, ou se préserver de toute récupération politique? Faut-il revoir les règles de nomination afin que ce symbole universel de réconciliation ne devienne pas un trophée de prestige offert à ceux qui maîtrisent l'art d'occuper la scène? Eh bien, on en débat jusqu'à 45.
France Inter, le débat de midi, Saskia Deville.
Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à participer à ce débat. Vous pouvez réagir dès à présent sur l'application Radio France ou envoyer des notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000. Tout d'abord, je présente nos invités du jour en studio avec moi. Bonjour Robert Kopp et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à l'Université de Bâle et membre du comité de rédaction de la revue des Deux Mondes. Bonjour et bienvenue à vous, Oscar Lambert.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez fait paraître ce livre en 2014, « Comment devenir prix Nobel de la paix sans se fatiguer » aux éditions Entretemps. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Et puis, j'ai le plaisir également d'accueillir par téléphone Jean-Marie Collin. Bonjour Jean-Marie Collin.
Bonjour.
Vous êtes directeur de ICANN en France, campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Votre organisation a reçu le prix Nobel de la paix en 2017. Et également avec nous aujourd'hui, Anna Assouline, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes activiste, vous êtes nommée pour le prix Nobel de la paix cette année avec votre association Guerrières de la paix, mouvement de femmes engagées pour la paix entre Israël et la Palestine et contre les discriminations. Merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous. Tout d'abord, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord qu'on comprenne un petit peu comment fonctionne ce prix Nobel de la paix, comment sont désignés les candidats. Robert Kopp.
Oui, il faut peut-être rappeler rapidement qu'il existe 5 prix Nobel, que ces 5 prix Nobel ont été fondés par le testament d'Alfred Nobel, qui est mort à la fin du 19e siècle, et qui a fondé un prix de chimie, un prix de physique, un prix de physiologie médecine, un prix de littérature et un prix de la paix. Et ils sont décernés depuis 1901, tous les 5, 4 par différentes académies suédoises, et le prix Nobel de la paix par un comité nommé par le Parlement norvégien. Il faut rappeler que au moment de la fondation des prix, la Norvège et la Suède n'étaient pas encore séparées. Je ne sais pas s'il faut dire deux mots de Nobel pour comprendre un peu la raison qui l'ont amené à fonder ce prix.
Allez-y, je vous en prie.
Un ingénieur qui a fait fortune et qui a inventé la dynamite. Voilà. Alors, ce n'est pas pour se faire pardonner d'avoir inventé un explosif qu'il a fondé le prix Nobel de la paix. Pas du tout. C'était un ingénieur, rappelons les dates de naissance et de mort pour le situer. 1833, c'est la génération de Zola, de Manet, de Ibsen et d'autres. Il est mort en 96, donc un peu au même moment que Mallarmé, pour aller vite, un peu avant Zola. C'est donc un homme du 19e siècle qui fait partie de ces grands ingénieurs du 19e siècle, comme Eiffel, Edison et beaucoup d'autres.
Et qu'a-t-il voulu réaliser justement avec ce prix Nobel de la paix ?
Il est, philosophiquement, il est saint-simonien. Donc, il est hostile à l'héritage. Il estime que chacun doit se débrouiller et recommencer à zéro. Donc, il n'était pas question que son immense fortune revienne à ses héritiers qui n'étaient pas directs, ils n'avaient pas d'enfants, c'était des neveux. Ça, c'est le point 1. Deuxièmement, il était socialiste et pacifiste, pour aller vite, pour le situer à peu près. Et donc, il a voulu que ses avoirs profitent à des découvertes au service de l'humanité. En médecine, en chimie, en physique, en littérature et pour la promotion de la paix.
Donc vous avez parlé de profil pacifiste. Juste avant qu'on demande comment Anna Assouline et puis Jean-Marie Collin, qui sont avec nous également ce midi dans ce débat, je vous ai vu faire une petite moue au moment de ce mot pacifiste, Oscar Lambert.
Oui, je voudrais juste ajouter effectivement à ce qu'a dit Monsieur Kopp deux trois détails intéressants, c'est-à-dire que effectivement on peut qualifier Alfred Nobel de pacifiste d'un certain côté, mais d'un autre côté c'est un pacifiste un peu particulier, puisque une partie de sa fortune venait de la dynamite, mais il était aussi marchand d'armes. Il a inventé des poudres à canons qui faisaient pas de fumée, il a inventé des canons et aujourd'hui encore certaines des entreprises qu'il a fondées sont continuent à exister et sont parmi les fleurons de l'industrie de l'armement mondial. Donc, du coup...
Donc, l'argent du Nobel, parce qu'on va en parler aussi, il y a une récompense quand on décroche le Graal, oui, en quelque sorte, vient de ce commerce-là ?
L'argent du Nobel vient de toute la fortune d'Alfred Nobel, qui était principalement constitué de ce qu'il avait gagné avec la dynamite, mais qui était aussi constitué de ce que ses frères, des participations qu'il avait dans les sociétés de ses frères, qui exploitaient du pétrole vers Bakou, donc sur la Caspienne, et puis aussi donc dans une moindre mesure, mais de ses revenus sur les poudres à canon et les canons, effectivement, oui.
Jean-Marie Collin, je le disais, hein, votre organisation ICAN en France, campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, a reçu le prix Nobel de la paix en 2017. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure nommée, parce qu'on peut se poser aussi la question, tout le monde peut-il prétendre au Nobel ? Comment sont désignés les candidats ?
Oui, alors c'est évidemment pas la campagne ICAN qui a souhaité être nominée. Ce sont différents types de personnalités qui ont le droit de nominer des acteurs individuels, des organisations. Et la majorité d'entre eux, eh bien, ce sont tous ceux qui disposent d'un mandat législatif, hein, donc des parlementaires, des chefs de gouvernement. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Netanyahou a donc fait cette fameuse lettre au président Trump, envoyée au comité Nobel. Et puis vous avez aussi, par exemple, aussi des membres de la Cour internationale de justice. Bref, vous avez une liste assez importante de personnalités qui peuvent nommer, donc, encore une fois, des organisations ou des individus. Et on a donc eu la chance en 2017. On le savait à partir du mois de juillet que nous étions nominés, notamment parce que en juillet 2017, nous avons réussi à faire adopter à l'ONU, avec le travail du Comité international de Croix-Rouge et de 122 États, un traité, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Et puis petit à petit, les mois passant, eh bien, nous avons compris, connaissance, que nous nous rapprochions de la shortlist, hein, de la liste finale, et jusqu'à début octobre, puisque le prix est annoncé début octobre, il est remis au mois de décembre, jusqu'à ce fameux vendredi matin où moi, par exemple, je me trouvais, pour la France en tout cas, en rendez-vous à l'Assemblée nationale et demandant à la députée avec qui je travaillais à 10h05, Madame Meriana Reid-Arbelot, une députée polynésienne, de écoutez, on va mettre la télé, on va quand même regarder si jamais nous avons eu cette chance et donc nous avons eu cet immense honneur.
Et comment avez-vous eu, vous, Anna Assouline, vous êtes, je le rappelle, nommée cette année pour ce prix Nobel de la paix, comment avez-vous eu connaissance de votre candidature, puisque on le rappelle, hein, pour le prix Nobel de la paix, on ne peut pas soi-même se proposer pour remporter le prix.
Ni pour les autres.
Anna Souline. Oui, tout à fait. Alors, oui, merci. Écoutez, du coup, nous, c'est un professeur qui enseigne la sécurité internationale à l'Université libre d'Amsterdam, qui s'appelle Wolfgang Wagner, qui a mis en place un procédé de nomination dans laquelle il investit ses étudiants, donc un groupe d'étudiants sélectionnés chaque année, qui font remonter plusieurs noms d'organisations, de groupes ou d'individus engagés pour la paix. Et il se trouve que c'est donc ce professeur, avec son groupe d'étudiants, qui nous ont contactés il y a quelques mois pour nous informer que nous étions nommés, aux côtés, je tiens à le préciser, de deux autres organisations. Mmh. Une organisation de femmes palestiniennes qui s'appelle Women of the Sun, qui sont des partenaires avec lesquels nous engageons depuis des années, et une organisation israélienne qui s'appelle Women Wage Peace.
Alors, soumettre sa propre candidature, on ne peut pas. Et je rebondis quand même sur ce que vous avez dit juste avant, Robert Kopp, on ne peut pas soumettre sa propre candidature, mais pas celle des autres non plus.
Si.
Vous m'avez dit nous, ni pour les autres.
Pour les autres prix.
Ah.
Pour aucun des prix, on peut être candidat. Pour chacun des prix, il y a des questionnaires qui sont envoyés à des quantités de personnalités plus ou moins compétentes et on remplit. J'ai été dans la boucle pour le prix Nobel de littérature pendant des années, comme beaucoup d'universitaires, beaucoup de littéraires.
En tant que conseiller,
Oui, conseiller avec une minuscule et des guides. Et donc, on peut proposer des personnalités. Et ensuite, c'est le comité de sélection, soit de l'Académie suédoise, soit de l'Académie de médecine, soit de ce comité nommé par l'Académie de Stockholm pour le prix Nobel de la paix.
C'est finalement assez opaque comme
fonctionnement. C'est totalement opaque. Ça fait partie d'ailleurs du succès du prix. On ne règne pas sans secret.
Oscar Lambert.
Oui, le secret et le suspense entretenus par le comité Nobel font partie de l'ADN de ce prix. Je voulais ajouter quelques petites précisions sur le mode de sélection parce que vous avez parlé donc de la nomination de Donald Trump par le Benjamin Netanyahu. Cette nomination, si elle est examinée, ne le sera pas pour le prix Nobel de cette année puisque les nominations doivent arriver au comité Nobel
avant
le 1er février. Ouais. Et donc là, 300 et quelques nominations ont été enregistrées. Peut-être.
Mais la liste reste secrète.
La liste est secrète. Peut-être que Trump y figure.
On ne sait pas.
La nomination de Benjamin Netanyahu.
En tout cas, Benjamin Netanyahu n'est pas le seul à avoir proposé Trump ce prix.
Le secret est très important.
Et bon, il sert à quoi?
Mais ça contribue à la réputation du prix. Si vous jouez carte sur table, il n'y a plus de suspense, il n'y a plus d'attente.
C'est un jeu ?
C'est le cas pour beaucoup d'organisations qui veulent régner. C'est le cas de la politique. Souvenez-vous du mot de De Gaulle, il n'y a pas de politique sans secret.
Anna Souline.
Oui, je rebondis sur, puisqu'on vient d'évoquer cette nomination de Donald Trump et notamment de cette scène ubuesque que même probablement des scénaristes d'une fiction dystopique n'auraient pas osé écrire, où on voit donc Benjamin Netanyahu remettre cette lettre de recommandation pour le Nobel. Je crois que ça nous amène à nous questionner aussi sur ce que signifie le prix Nobel de la paix, mais plus largement la paix, c'est-à-dire est-ce que il s'agit d'un trophée, d'une médaille qu'on poserait sur une étagère qui aurait pour vocation de flatter l'ego de puissants. Est-ce que si au terme de rapports de force diplomatiques, militaires, économiques, Donald Trump réussissait à obtenir un cessez-le-feu permanent à Gaza, puisque c'est le sujet sur lequel je suis engagée, et une libération des otages, est-ce que pour autant ça ferait de Trump un homme de paix qui serait potentiellement nobélisable? Je crois que c'est surtout ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est-à-dire que la paix ne sera jamais, encore une fois, un trophée. C'est une quête permanente, une quête qui ne peut être menée sans une certaine idée de justice, d'égalité et de dignité des peuples. Et donc, effectivement, ce prix a du sens quand il est attribué à des femmes comme Lee McBowie au Liberia, comme Malala Yousafzai au Pakistan, comme Nadia Mourad, la famille Yézidi, ou encore quand il a été, après les accords d'Oslo, attribué conjointement à Yasser Arafat, Rabin et Shimon Peres. Mais quand effectivement il est vécu aujourd'hui comme une forme de trophée, de victoire par des personnalités cyniques qui aujourd'hui mènent le monde vers l'abîme, ça nous pose de vraies questions sur ce que c'est que le combat pacifiste aujourd'hui.
Alors imaginons que Trump, effectivement, que sa candidature ait été proposée dans l'État, est-ce qu'il a vraiment ses chances? Imaginons un résultat spectaculaire à Gaza, Oscar Lambert.
Alors on peut tout imaginer avec le comité Nobel. Créer la surprise fait partie des stratégies qu'il a mises en œuvre au cours de l'histoire pour faire ce que le prix est aujourd'hui. C'est fort peu probable, mais on peut tout imaginer. Theodore Roosevelt a eu le prix Nobel en 1906, alors que c'était l'un des présidents américains les plus interventionnistes et les plus belliqueux de l'histoire. Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Madame Assouline, qui était hyper intéressant, sur qu'est-ce que c'est que la paix.
Que signifie la paix?
Que signifie la paix? C'est une question philosophique, mais c'est une question à laquelle Alfred Nobel avait répondu dans son testament. En tout cas, pour lui, il avait donné des critères extrêmement précis sur à quel type de personnes devait aller le prix. Il avait dit que c'était des personnes qui devaient avoir accompli un travail durant l'année écoulée.
Personne ou communauté?
Ah non, il avait dit des personnes. Donc du coup, effectivement, il s'agit de personnes physiques. Il avait dit une personne, donc ça aussi, c'est important à avoir en tête. Il avait donc dit que c'était dans l'année écoulée. Il avait dit que c'était des personnes, pour le prix Nobel de la paix, qui devaient avoir accompli des actions dans quelques domaines précis. La réduction des armements, la réduction des armements
suppression
la suppression des armées permanentes l'organisation de congrès de la paix
et le rapprochement des peuples
et le rapprochement des peuples qui est un autre endroit du testament et donc qui peut pas être vraiment considéré comme une condition supplémentaire mais plutôt une philosophie pour ces trois actions. Donc je vous laisse vous demander si oui ou non Donald Trump œuvre pour la réduction des armées permanentes, pour le désarmement et pour l'organisation de congrès de la paix.
Il est midi 20 sur France Inter. On va continuer ce débat dans une deuxième partie. Juste avant cela, il y a une pause musicale ici avec ce titre de Freak Slug Spells. Et c'était Spells, titre de Freak Slug, à midi 22 sur France Inter.
France Inter. Le débat de midi.
faut-il réformer le prix Nobel de la paix? On en débat aujourd'hui sur France Inter. Vous pouvez rejoindre ce débat, chères auditrices, chers auditeurs, en envoyant vos messages sur l'application Radio France ou des notes vocales sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000, comme par exemple Nicolas qui nous écrit ceci. Stop au prix Nobel. La meilleure solution, c'est d'arrêter de donner ce genre de prix. Cela ne sert qu'à l'orgueil de celui qui le reçoit. Ça ne rapporte rien à l'humanité. Stop. On a aussi Thomas qui nous écrit ceci. La paix serait donc idéologique. Le réel ne compte pas. Si Gargamel fait la paix et que c'est un méchant, alors il ne mérite pas le prix. Alors ici, on avait, juste avant notre pause musicale, ça vous fait beaucoup sourire, cette évocation de Gargamel. Nous avions donc l'un de nos invités, Oscar Lambert, journaliste qui redéfinissait en quelque sorte le prix Nobel de la paix. Je pense que vous souhaitiez rebondir, Jean-Marie Collin. Je rappelle, vous êtes directeur de ICANN en France. Vous avez reçu le prix Nobel de la paix en 2017.
Oui, c'est important. Effectivement, ce que je voulais dire, c'est que, revenir sur ce qui a un peu été dit, voilà, comme disait Dominique Pire, qui a été prix Nobel de la paix en 58, effectivement, la paix, c'est pas seulement le silence des canons, et donc, on ne peut pas imaginer, ou j'aurais beaucoup de mal à imaginer, que Donald Trump reçoive ce prix, étant donné ses actions aussi qu'il a réalisées cette année et par le passé. Il a notamment mené une action militaire totalement illégale contre l'Iran, hein, ou encore continué à livrer des systèmes d'armes à Israël, dont on sait certaines opérations militaires aujourd'hui sont à l'encontre du droit international humanitaire. D'autre part, ce qui est important de comprendre dans le secret autour de ce prix Nobel, c'est aussi pour éviter les pressions que les membres de ce comité pourraient recevoir de la part de différentes organisations ou institutions. Je sais que dans le cadre du prix Nobel dont notre campagne a reçu en 2017, c'était d'ailleurs l'administration Trump à cette époque, l'ensemble des États qui possèdent des armes nucléaires ont été extrêmement vexés que ICANN reçoive ce prix Nobel de la paix. Et d'ailleurs, la diplomatie française n'est pas venue à la cérémonie du prix Nobel, comme la diplomatie britannique, en décembre à Oslo, exprimant ainsi leur refus de voir notre organisation internationale recevoir ce prix pour avoir aidé à la création, encore une fois, de ce traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Donc, le secret est important pour éviter la pression, et si je veux répondre à la question de Nicolas, c'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté, et c'est important.
C'est ça que j'allais vous demander.
C'est important pour tous les acteurs qui ont travaillé. On peut penser au docteur Mugele, on peut penser aux noms qui ont été indiqués. Ça permet véritablement de mettre en avant une cause pendant longtemps, de pouvoir travailler, d'honorer tout le travail que ces personnes ont réalisé dans l'ombre. Il faut bien voir à titre personnel et au titre de la campagne ICANN, pendant plus de 10 ans, on a reçu des commentaires extrêmement négatifs de la part de diplomates, de think tanks, indiquant que notre travail ne servait à rien. Et là, c'est aussi une certaine revanche. Donc ça fait du bien aux ONG, ça permet d'avancer un certain nombre d'idées, ça permet de débloquer des situations. Aujourd'hui, ce traité est en vigueur, il a été ratifié signé par près de 98 États, soit la moitié des États membres de l'ONU. Donc, ça sert véritablement à quelque chose.
Et puis, il y a cette reconnaissance internationale, cette médaille, cette somme aussi. Alors, en 2024, le montant du prix Nobel de la paix était de 950 000 euros. Est-ce que cet argent, et je vais rester quand même un petit peu avec vous, Jean-Marie Collin, vous a servi? J'imagine que oui.
Oui, évidemment. Effectivement, je crois que c'est la somme qui a été reçue aussi en 2017, le montant que vous avez indiqué. Oui, ça fait à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est beaucoup puisque tout d'un coup, c'est un apport d'argent et ce qui permet aussi d'entraîner une information auprès d'autres potentielles fondations et de travailler. On a une campagne qui est présente dans 110 États, plus de 700 organisations qui en sont membres. On a un staff international de près de 30 personnes à travers le monde. Donc ça permet un souffle d'espoir important. Par exemple, en 2015, nous n'avions quasiment aucun financement et pourtant, on a réussi à avancer. Donc oui, c'est une reconnaissance et un prix qui me permet d'avancer, permet de continuer de travailler. Et bien sûr, cette médaille est importante puisqu'elle nous donne, comme je l'indiquais, cette fameuse fierté et ce prestige, en quelque sorte, qui nous permet aussi, qui nous a facilité aussi un certain nombre de rencontres qui, moi, personnellement, pour la campagne ICANN en France, a permis de rencontrer beaucoup plus de parlementaires, de pouvoir travailler mieux, de pouvoir mieux faire connaître notre campagne en France.
Cette somme de presque 1 million d'euros, Anna Assouline, à quoi vous servirait-elle et n'auriez-vous pas souhaité la recevoir plus tôt, en quelque sorte? Je rappelle, vous êtes nommée pour le prix Nobel de la paix cette année avec votre association Guerrière de la paix.
Oui, alors vous l'avez rappelé, ça a été rappelé par les autres invités. Ça n'est pas quelque chose que l'on recherche, le prix Nobel. On est effectivement nommé parce que notre travail et notre engagement est à un moment donné récompensé d'une certaine manière. En revanche, je crois que ce qui est très très important, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas effectivement d'un trophée figé, que la paix, encore une fois, c'est une quête, c'est un engagement, c'est un horizon. Et donc nous, quand on a reçu cette nomination, à aucun moment on a eu ce sentiment, qui serait d'ailleurs assez obscène, particulièrement aujourd'hui dans le contexte que nous vivons, comme une forme d'accomplissement, mais plutôt comme un engagement qui nous oblige davantage, qui nous donne et qui nous confère une encore plus grande responsabilité. Et cette responsabilité, c'est l'action que nous menons au quotidien, que nous allons continuer de mener, et qui, encore une fois, s'inscrit dans un chemin. La paix est un chemin et pas un accomplissement, et je crois que c'est important, dans la manière de concevoir le Nobel et ses nominations, de se dire qu'il ouvre la voie vers encore plus de responsabilité, vers un engagement sans relâche au quotidien.
Anna Assouline, donc ici, qui réagit à cela. Et j'ai envie de revenir, Oscar Lambert, sur ce livre, hein, « Comment devenir prix Nobel de la paix sans se fatiguer ». Vous avez mis au point sept préceptes. Alors, ce ne sont pas évidemment des règles officielles, hein, mais c'est plutôt une critique du fonctionnement réel et parfois cynique du Nobel. Et alors, je pense effectivement qu'on peut plutôt pencher vers la candidature de Trump, qui, elle, est une candidature, semble-t-il, fortement recherchée.
Oui, oui. Donald Trump, il fait pas mystère de la volonté qu'il a d'obtenir le prix Nobel, et il est pas le premier dans l'histoire à crier publiquement qu'il veut le prix Nobel. Certains ont réussi à l'avoir, d'autres n'y sont pas parvenus. Mais effectivement, parmi les préceptes que je m'étais amusé à édicter pour obtenir le prix Nobel de la paix, j'avais notamment identifier celui-ci, qui est qu'il faut savoir raconter son histoire et qu'il faut faire parler de soi, qu'il faut faire
même
polémique.
Même en mal.
Oui, même en mal. C'est-à-dire que faire polémique, entretenir ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz autour de soi, est toujours bon pour obtenir le prix Nobel, même si c'est jamais une règle absolue. Après, pour revenir sur l'argent qui est attaché au prix Nobel, donc 1 million d'euros, il faut préciser que c'est de l'argent qui ne s'accompagne d'aucune obligation, si ce n'est le fait d'aller recevoir son prix à Oslo et de donner une conférence. Donc je trouve ça très très bien que Madame Assouline envisage cette récompense comme un engagement, mais ça ne s'accompagne pas d'obligation. Et d'ailleurs, Aristide Briand, donc en 1926, prix Nobel de la paix en 1926, n'avait pas fait mystère de son intention d'utiliser son argent pour acheter une maison de campagne en Normandie.
Anna Assouline, vous voulez réagir, pardon, Robert Koch.
Oui, les candidatures entre guillemets, parce que encore une fois, on ne peut pas être candidat, on peut demander à des amis de vous proposer, qui nous paraissent soit farfelues, soit scandaleuses, ont toujours existé. Il ne faut pas oublier que Hitler a été proposé, Staline a été proposé.
C'était un canular hein, pour Hitler.
Voilà.
La nomination
c'était pour
a été,
faire réagir.
La nomination a été retirée
Staline
par la suite.
A été proposé, Staline, Mussolini a été proposé. Donc, ça n'engage que ceux qui proposent. Pour ce qui est de Trump, il est évident qu'il le recherche, ne fût-ce que pour damer le pion à Obama, par exemple, et à Carter, pour montrer ce qu'il dit d'ailleurs, urbi et orbi, qu'il est le meilleur, le plus beau, le seul et l'unique. Maintenant, je ne pense pas qu'il le recevra jamais. Quant à la définition de la paix, en effet, Madame Assouline a posé une question très très importante, et elle se pose depuis Alfred Nobel, qui a beaucoup réfléchi sur ce qu'est la paix. Il savait très bien, vous le rappelez, Oscar Lambert, que indirectement ou directement, il a favorisé la guerre. Il a fourni des armes pour la guerre de Crimée. C'était un ingénieur. Il fabriquait des moteurs, mais aussi des moteurs de bateaux. Il fabriquait des torpilles, et donc il a favorisé la guerre. Il estimait que la guerre ne pouvait pouvait pas être éradiquée, mais qu'on pouvait essayer de la domestiquer. Il a même imaginé ce qu'on a appelé beaucoup plus tard l'équilibre de la terreur et la guerre froide. Il s'est demandé s'il ne fallait pas inventer un explosif aussi puissant qu'il pourrait anéantir l'humanité entière. Et que si deux grandes puissances disposaient de cet explosif, ils se neutraliseraient mutuellement. C'était déjà l'équilibre atomique de la terreur qu'il avait imaginé.
On va continuer à évoquer donc ce prix Nobel de la paix, un mode de nomination à revoir. Il est midi 33 sur France Inter. On va écouter un titre signé Ours, devenir meilleur.
Il nous reste du temps pour parler. Il nous reste devant, du temps pour réparer. Est-ce qu'on va essayer? Est-ce qu'on peut y arriver? Il nous reste devant encore un long parcours. Il nous reste du temps avant de faire le tour. L'amour et ses nuances, ses éclairs, sa patience. 6 mois, 1 an ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Laisse-moi du temps pour devenir meilleur. Il nous reste la nuit, des refrains, des mélodies, encore quelques envies, des étés, des trains partis, avant de tout jeter par terre. Laisse-moi du temps pour mieux faire. 6 mois, 1 an, ou peut-être quelques heures. Laisse-moi du temps pour nous emmener ailleurs. Laisse-moi du temps pour devenir meilleur.
Devenir meilleur, titre de Ours à 12h35 sur France Inter.
Le débat de midi, Saskia Deville sur France Inter.
Et on continue de débattre sur ce prix Nobel de la paix. Doit-il être réformé? Doit-il être, eh bien, complètement disparaître, pourrais-je dire? Ici, on a des réactions de nos auditrices, de nos auditeurs, et notamment deux messages à propos du Nobel de la paix d'Obama, dont j'aimerais qu'on parle aussi ce midi. Franck qui nous écrit ceci: Obama n'aurait pas dû l'avoir. Pourquoi Monsieur Obama a eu le droit d'avoir le Nobel alors qu'il a été engagé dans 3 guerres? Jacques nous écrit aussi ceci: je n'ai jamais compris pourquoi il a reçu le Nobel si tôt, très peu de temps après son élection et avant même qu'il ait pu agir. Ça lui a mis une pression énorme pour ses actes et ses décisions à venir. Ça, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Je me tourne vers vous, Oscar Lambert.
Oui, ça a été beaucoup reproché au comité Nobel en 2009 quand il a choisi Barack Obama, parce que il avait choisi quelqu'un qui incarnait surtout un espoir pour des millions de gens et qui n'avait pas encore réalisé quoi que ce soit. Mais c'était pas du tout la première fois que le comité Nobel choisissait quelqu'un avant qu'il ait vraiment que ses actions aient vraiment porté leurs fruits. Il avait choisi par exemple Henry Kissinger en 1973 pour la négociation avec donc Leduc Tho, le ministre des Affaires étrangères vietnamien, d'un cessez-le-feu qui n'a finalement pas été appliqué. Donc du coup, Henry Kissinger, ça avait fait scandale par sa personnalité même quand il avait été choisi, mais en plus effectivement le cessez-le-feu feu n'a pas été appliqué. D'ailleurs, il avait une forme de droiture morale, Henry Kissinger, puisque deux ans après, quand il a vu que le cessez-feu avait pas été appliqué, il a demandé s'il pouvait restituer son prix. Et on lui avait dit que non, c'est pas possible, désolé monsieur Kissinger.
Et c'est vrai, c'est une vraie question. Peut-on retirer le prix Nobel de la paix à quelqu'un? Je vous propose d'écouter ici un vocal que nous a laissé notre auditeur Philippe.
Est-ce vraiment pertinent et sérieux de vouloir récompenser pour le prix Nobel de la paix des personnalités individuelles?
Et effectivement, c'est une vraie question. Quand on récompense quelqu'un individuellement, est-ce qu'on ne prend pas le risque aussi de devoir retirer le prix Nobel de la paix à quelqu'un? Est-ce que c'est possible déjà dans un premier temps? Et je prolonge, on va dire, le message de notre auditeur Philippe. Je vous pose la question à vous, Robert Kopp.
Ben oui, bien sûr, on peut récompenser individuellement quelqu'un. Quand on récompense Mère Teresa ou quand on récompense Martin Luther King, on récompense évidemment une personnalité qui, par son action, par son rayonnement, a contribué pour la promotion de la paix, qui, encore une fois, n'est jamais établie définitivement. Mais il y a deux formes de récompense. Il y a les individus qui sont à la tête d'une action et qui, évidemment, ne sont jamais seuls. Et puis les organismes comme le comité de la Croix-Rouge internationale, qui a reçu plusieurs fois le prix Nobel de la paix.
Et comme les organisations et associations de nos deux autres invités. Jean-Marie Collin, vous voulez réagir?
Oui, par rapport à Obama, c'est vrai que ce prix a été souvent discrédité ou indiqué qu'il n'aurait pas dû le recevoir. Ce qu'il faut bien comprendre, et je crois, ça a été indiqué, et c'était pour l'espoir qu'il engageait sur un monde meilleur. Il faut se rappeler que s'il a été président en 2009 et qu'il a eu ce fameux discours de Prague, justement, où il engageait pour un monde sans armes nucléaires, où il annonçait la mise en place d'un futur traité, le traité New Start, qui est d'ailleurs rediscuté aujourd'hui, qui est toujours en vigueur et dont on s'interroge sur sa poursuite l'année prochaine avec la Russie. Il avait, dès juillet 2008, en tant que sénateur, indiqué à Berlin qu'il fallait travailler pour un monde sans armes nucléaires. Donc, c'est cette action globale qui lui a permis, qui a finalement décidé les membres du comité Nobel à recevoir ce fameux prix. Il est vrai que quand ce sont des personnes individuelles, ça peut poser interrogation. Il est probablement mieux que ça soit des organisations, au nom de l'organisation, et d'ailleurs il y en a eu énormément. Si on prend en 1985, pour rester dans mon domaine du nucléaire, l'Organisation des médecins pour la prévention pour la guerre nucléaire. En 95, l'organisation Pugwash, qui travaille aussi dans la diplomatie. Et on peut avoir des surprises lorsque ce sont des individus. Je pense notamment à Aung San Suu Kyi avec ses actions, ou encore, on le sait un petit peu moins, avec le président du Costa Rica qui est vrai, a permis d'éviter la livraison d'armes dans les années 80, mais qui traîne depuis quelques années des affaires de viol auprès d'un certain nombre de personnes et donc finalement a noirci son image de prix Nobel.
Mais alors faut-il donner ce prix Nobel de la paix pour encourager, pour récompenser Anna Souline?
Pour encourager, probablement, encore une fois, on a énoncé de nombreuses figures et je rebondis notamment sur celle de Martin Luther King, puisqu'on se posait la question de ce que c'était que la paix, et à la fois comme notion philosophique, mais aussi de manière très pragmatique, Martin Luther King disait que la paix n'était pas seulement l'absence de conflit, mais la présence de justice. Et donc, en effet, cette question, on se pose depuis tout à l'heure, plusieurs notions viennent, à la fois la question, la dimension collective versus la dimension individuelle, la dimension pragmatique, parfois même cynique, qui peut mener à des accords au terme de négociations et de rapports de force, ou la dimension plus incarnée d'un espoir, d'un horizon que d'autres figures ont pu incarner. Donc, la question qu'on doit se poser, je crois, encore une fois, c'est la question de ce qu'est la paix comme appel à la responsabilité collective et comme horizon pour les peuples de dignité, de justice, d'égalité et de liberté. Et il y a comme une forme de vertige, je crois, aujourd'hui à avoir ce débat qui est extrêmement intéressant, mais décorrélé d'un contexte particulièrement tragique. Vous annonciez tout à l'heure dans vos titres la mort de journalistes à Gaza cette nuit. On a eu les annonces du cabinet de guerre de Netanyahou de prendre le contrôle de toute la bande de Gaza cette semaine, suite à des images atroces d'otages qui ont été dévoilées par le Hamas et le Djihad islamique. Donc on est dans un moment d'une extrême gravité qui nous place tous face à notre responsabilité et face à notre engagement. Et je crois que c'est dans ce combat-là que nous devons nous inscrire tous, à la fois individuellement et collectivement.
Mais alors faut-il, et ce sera ma dernière question dans ce débat de midi, faut-il réformer le prix Nobel de la paix? Je vous pose la question à vous, Robert Kopp et Oscar Lambert, notamment je pense à ce comité, ces cinq personnes nommées donc par le Parlement norvégien. Faut-il par exemple, et ce sera ma dernière question à tous les deux, élargir ce comité à d'autres nationalités? Oscar Lambert.
C'est une question qui s'est largement posée au cours de l'histoire, que le Parlement norvégien s'est souvent posée, et qui, pour l'instant, a été assez largement résolue, en disant que non, on laisse à des Norvégiens le soin de désigner les lauréats. Et pourquoi ? Parce que le prix Nobel de la paix est un formidable instrument de soft power dans les mains de...
Soft power norvégien ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'un des anciens présidents du comité Nobel disait « Quand on change de Premier ministre en Norvège, personne s'y intéresse. Par contre, tous les ans, il y a deux fois tous les ans, donc au moment de la nomination et au moment de la cérémonie, les caméras du monde entier qui sont braquées sur la Norvège. Et ça, c'est quelque chose que les Norvégiens seront, à mon avis, jamais prêts à lâcher.
Évidemment, Oscar Lambert a totalement raison, mais la question peut s'élargir dans la mesure où, si on regarde l'histoire du prix Nobel de médecine, de littérature, de chimie, de physique, les polémiques ne sont pas moindres. Les contestations ne sont pas moindres. Je me souviens avoir été tout jeune professeur à Bâle lorsque le prix Nobel a été attribué à Werner Arber, à Daniel Nathan et à Hamilton Smith pour la médecine, pour ce qu'on appelle les enzymes de restriction qui permettent de séquencer l'ADN. Grande polémique, on récompense la manipulation génétique. Vous voyez, on peut prendre n'importe quel prix Nobel et on trouve un certain nombre de polémiques, on trouve un certain nombre de contestations et cela montre indirectement l'importance de cette récompense, de cet encouragement. Car partout aussi s'est posé la question, faut-il encourager, c'est-à-dire récompenser quelqu'un de jeune qui promet, ou faut-il récompenser une œuvre accomplie ?
Anna Souli nous a répondu, hein, encourager, surtout encourager.
Oui, ça signifie que l'âge moyen devrait diminuer, l'âge moyen des lauréats est d'une soixantaine d'années.
Encourager, c'était l'intention de Nobel, c'est pas ce qui s'est vraiment passé, puisque l'âge moyen des lauréats est plutôt dans les 70.
Je crois que c'est pas le cas d'Anna Souli, hein. Arrêtez-moi Anna Souli, je pense que vous avez 35. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat de midi autour de cette question. Faut-il réformer le prix Nobel de la paix ? On aurait pu encore poser tellement de questions. Faut-il un certain recul historique pour mieux l'attribuer ? Alors, c'était pas la volonté d'Alfred Nobel, mais voilà, le débat continuera ailleurs. Merci beaucoup à tous les quatre. Robert Kopp, merci à Oscar Lambert. Je rappelle votre livre « Comment devenir prix Nobel de la paix sans se fatiguer ». Merci à vous Jean-Marie Collin d'avoir été avec nous et puis Anna Souline, nommée pour le prix Nobel de la paix 2025 avec votre association Guerrières de la paix, mouvement de femmes engagées pour la paix entre Israël et la Palestine et contre les discriminations. La réponse sera donc à Oslo le 10 octobre prochain. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce débat de midi. Aurore Mansip et Louise Morfois à la programmation, nos stagiaires Anaë Balista et Ryan Saibi, notre documentaliste Corinne Chauvel, une programmation musicale de Djoubaka. Cette émission a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique aujourd'hui Tilaï Ravu.